19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir ici même. On va clore cette semaine avec ce vendredi, tout simplement, pour parler des informés des quartiers. Les informés des quartiers, beaucoup de sujets qui ont retenu notre attention. Vous le savez, et au menu aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée, la députée Sabrina Sebaï, qui sera dans une poignée de minutes avec nous pour nous parler, évidemment, de ce débat houleux sur les accords. Cette proposition du député LR qui proposait de revenir sur les accords France-Algérie. Des pas houleux, justement Sabrina Sebaï a reçu quelques remarques, quelques pressions, mais également aussi des menaces, on en parlera. Et en primeur, nous avons donc évidemment la chance de l'avoir en direct dans une poignée de secondes, minutes à peine. Et puis les débatteurs influenceurs reviendront sur trois sujets d'actualité durant ces informés des quartiers. Parce que, figurez-vous, nous allons revenir sur Hanouka à l'Élysée, cette fête, justement, où se place la laïcité, et puis aussi, où, qu'est-ce qu'on laisse comme exemple à ces jeunes tout court, et puis de l'éducation nationale qui est montée au créneau, les politiques de gauche comme de droite aussi, et puis aussi les personnalités religieuses. Nous parlerons aussi, vous savez quoi, de ces Français qui sont de plus en plus nombreux à penser que le RN n'est finalement pas un danger pour notre démocratie. Et finalement, si tout cela s'est installé, ça y est, hein, dans le paysage politique, eh bien nous en parlerons aussi. Hausse des actes islamophobes. Pourquoi ? Tout simplement, n'est-ce pas lié à ce conflit israélo-palestinien ? Voilà, puisque dans les quartiers populaires, beaucoup de responsables associatifs alertent ou en tout cas interpellent. Nous en parlerons ici. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et j'ose dire, j'ai oublié, la priorité aussi, les auditeurs au 01 53 48 3000, vous êtes prioritaires, vous intervenez quand vous voulez jusqu'à 20h. On est là pour commenter, analyser, décrypter les informés. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Sabrina Sebaï. Bonjour Sabrina Sebaï.
Oui, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous. Tout d'abord, j'ai envie de vous demander, parce qu'on se connaît, comment allez-vous ?
Bah écoutez, ça va. Ça J'étais va. Toute la journée à Nanterre, j'ai rencontré pas mal de personnes, beaucoup de soutien.
Vous êtes la députée des Hauts-de-Seine, vous êtes aussi Europe Écologie Les Verts, membre de l'Europe, éminente membre de l'Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sabrina Sebaï, madame la députée, parce que j'aimerais revenir, vous savez quoi, sur ce débat qui s'est déroulé dans le cadre de l'immigration. Ce débat où l'Assemblée a rejeté clairement le texte LR, demandant tout simplement de dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Alors, Sabrina Sebaï, nous allons diffuser un extrait. C'est celui qui est le vôtre. Vous êtes emparée de la parole, évidemment de la parole, et vous avez exprimé évidemment votre désaccord, mais vous avez expliqué aussi les raisons. Madame la députée, si vous permettez, nous allons écouter un petit extrait.
Responsable, et je termine par là, de voter un texte défendu par une descendante de l'OAS et applaudi par les héritiers des tortionnaires de l'Algérie. Oui, l'OAS, cette organisation d'extrême droite défendant la présence française en Algérie et qui a assassiné plus de 2000 Français et Algériens. Cette OAS qui a même fait un attentat, tentative d'attentat contre De Gaulle. Et ça, il faut le dire, que c'est assez savoureux de voir les LR aujourd'hui réhabiliter l'OAS au sein de cet hémicycle.
Je voudrais vous rappeler que le règlement interdit toute mise en cause personnelle, ce que vous n'avez pas hésité à faire. Il vous interdit de m'interpeller comme vous l'avez fait.
Madame Tabarot, à la parole, s'il vous plaît.
Et ça s'appelle l'article 70 du règlement. Ensuite, je voudrais juste vous rappeler que je suis fière de mon histoire.
Voilà, je voulais laisser les choses jusqu'au bout, madame la députée Sabrina Sebaï, parce que c'est un débat qui s'est transformé de façon houleuse, hein. Débat houleux à l'Assemblée nationale concernant cette proposition qui a été rejetée.
En réalité, ça fait plusieurs jours que les débats sont compliqués. Vous savez, ça fait plusieurs jours que le texte sur asile et immigration est en débat au sein de la commission des lois, ce qui n'a pas arrangé les choses. Et puis effectivement, cette journée sur la niche parlementaire du groupe Les Républicains, qui avait deux textes majeurs selon eux, puisque c'était les deux premiers textes de leur journée parlementaire. Le premier qui était donc la dénonciation de manière unilatérale des accords de 1968 entre la France et l'Algérie, et un deuxième texte qui était une réforme constitutionnelle sur la question et leur fantasme autour de l'immigration massive. Et dans ce deuxième texte, nous avons aussi des amendements qui ont été spécifiques aux Algériens. Vous voyez, ça fait déjà plusieurs jours qu'on assiste à ce débat nauséabond. Et c'est vrai que le parcours, en tout cas, de cette députée qui a présenté le texte en tribune, eh bien, il est très, très particulier, parce qu'elle le dit elle-même, elle est fière de son histoire, et donc de son passé, de son histoire.
Mais vous faites référence, madame la députée, à l'OAS, justement.
Ben, je fais référence à l'OAS parce que son père était l'un des fondateurs de l'OAS, mais surtout parce qu'elle-même, en tant qu'élue locale dans son territoire, elle a, à plusieurs reprises, défendu les bienfaits de la colonisation. Elle dit qu'il n'y a pas de repentance à avoir. Elle chantait des chansons sur la nostalgérie. Donc vous voyez, en fait, c'est finalement, elle partage totalement, c'est-à-dire qu'elle fait sienne les idées de son père. Quand je parle de son passé, ce n'est pas une question de filiation par rapport à son père. Ce que je me remets pas en cause et ce qu'on m'a reproché, c'est de dire oui, mais elle n'est pas responsable des actes de son père. Ce n'est pas ça que je lui reproche. Ce que je lui reproche, c'est de faire sienne les idées de son père. Et donc de continuer à les maintenir. Et ce sont ces nostalgiques de l'Algérie qui aujourd'hui proposent une résolution mettant en cause l'ensemble des Algériens qui viendraient sur le territoire français, par ailleurs avec des arguments totalement fallacieux, en disant que les Algériens auraient des conditions beaucoup plus privilégiées que d'autres, alors que ce n'est pas le cas de ces accords de 1968.
Dites-moi, madame la députée Sabrina Sebaï, justement, l'Assemblée a rejeté le texte LR demandant donc de dénoncer l'accord franco-algérien. De votre côté, évidemment, vous respirez, c'est un ouf. Pour quelle raison ?
Eh bien, en fait, c'est un ouf parce que un grand ouf, et d'ailleurs, le texte suivant a également été abandonné par LR, parce que, en fait, ils sont dans une logique de stigmatisation permanente finalement, ces anciens pays qui ont été colonisés. Et c'est bien ça de quoi on parle, parce que quand on parle d'immigration, vous pensez bien qu'on parle surtout de l'immigration du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. On ne vise pas du tout les autres formes d'immigration. Et je vous le dis, c'est un climat vraiment qui dure depuis des mois maintenant, avec on pointe systématiquement du doigt les mêmes. Derrière, finalement, l'Algérie, ce qu'on pointe, c'est peut-être aussi cette nostalgie de l'empire colonial français pour certains d'entre eux, et puis le musulman aussi derrière qui est visé par toutes ces propositions de loi. Donc oui, c'est un grand ouf de voir que le Parlement est encore assez responsable pour ne pas endommager de manière pérenne les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
Dites-moi, madame la députée, vous savez, ça a suscité beaucoup de réactions, vous avez reçu des pressions, vous avez reçu aussi des menaces, et j'aimerais qu'on en parle en direct dans cette émission des informés. Vous savez, c'est le tweet de l'avocat Gilles-William Golnaden qui dit « Dixit, une descendante du FLN qui soutient le Hamas, applaudie par des ennemis du peuple français, l'extrême gauche est la maladie honteuse que la peste brune des années 30, où on l'éradique ou l'on meurt. » Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Eh bien, je lui ai répondu ce matin déjà que ces menaces ne m'impressionnaient pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai porté plainte contre lui. Donc, ça n'en restera pas là, en tout cas, de mon point de vue. Il m'a clairement ciblé avec les propos qu'il a mis dans son tweet, donc de la diffamation, des menaces. Tout y est dans son tweet. Et depuis, son tweet, d'ailleurs, j'ai reçu énormément de soutien, bien sûr, et je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien depuis 24 heures maintenant, mais aussi beaucoup de messages d'insultes, et avec tous les fantasmes auxquels j'ai eu le droit, donc la cinquième colonne, qui serait déjà présente à l'Assemblée nationale, des photos de militaires, de soldats de l'OAS, où il y a écrit « prêt à reprendre du service », des personnes qui disent « bon, bah le boulot est à terminer ». Enfin voilà, des messages comme ça quand même depuis 24 heures qui sont en boucle sur les réseaux sociaux.
Qui sont en boucle. Qu'est-ce que vous dites justement à nos auditeurs qui ont apporté leur soutien à vos côtés ?
Eh bien d'abord, je voudrais vraiment les remercier parce que ce soutien, il est extrêmement important pour moi et ça permet aussi de tenir, aussi de se dire qu'on est finalement, on est dans le vrai. Dans les propos que j'ai pu tenir et dans ce qu'on défend. Moi, je pense qu'on est aussi là pour défendre des valeurs et les valeurs, celles de la République. Et moi, j'y tiens énormément et surtout de fraternité. C'est extrêmement important et je pense que ce texte, justement, il allait à l'encontre de tout ça. Donc, ces messages, ils me sont absolument essentiels. Et puis, surtout, de dire qu'il ne faut rien céder. À chaque fois qu'on nous serons attaqués par des personnages comme ce monsieur, eh bien, il faut systématiquement porter plainte et ne pas laisser passer les choses.
Madame la députée, Sabrina Sebaï, dernière petite question. Le Conseil de sécurité, là je fais référence au conflit israélo-palestine en direction Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU examine un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Et les déclarations choc de l'ONU aussi sur le sort des civils palestiniens. Qu'est-ce que vous avez, quel est le vœu le plus cher? On connaît évidemment votre posture, mais quel est le vœu le plus cher? Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, là, dans les jours à venir, pour sortir de cette situation?
Mais moi, je pense que la France peut et doit d'ailleurs vraiment prendre une position très ferme pour demander un cessez-le-feu immédiat. C'est essentiel. Je pense que la France, elle peut entraîner d'autres pays avec elle justement sur cette demande de cessez-le-feu. C'est primordial si on veut préserver la vie des Gazaouis. Enfin, on est quand même à plus d'un million de personnes qui ont été déplacées aujourd'hui à Gaza. Des conditions humanitaires qui sont vraiment déplorables et vraiment... moi, je comme tout le monde, je suis la... qui se passe à Gaza et c'est terrible de voir toutes ces images. Et donc je pense qu'à un moment, moi je l'ai dit, il faut faire respecter à l'État d'Israël le droit international, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et que si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut donner des sanctions à ce gouvernement parce qu'il ne peut pas être au-dessus du droit international. Il doit se plier comme tous les autres États à ce droit. Et aujourd'hui, moi j'avoue que je peine à comprendre pourquoi nous ne sommes pas capables d'avoir ces paroles de fermeté et de justesse vis-à-vis de ce gouvernement.
Sabrina Sebaï, vous êtes donc députée des Hauts-de-Seine. Merci d'avoir été avec nous, Madame la députée, dans
merci
les informés.
À vous.
Merci et bon courage à vous. Merci infiniment. 19h12 précisément, si vous venez de nous retrouver. Et je vais présenter, vous savez quoi, tous les débatteurs influenceurs qui sont autour de plateau. Jessica Elonguer, élue de Creil. Bonjour Jessica.
Bonsoir.
Maître David Libeskind, bonjour.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va.
Très bien, toujours souriant, toujours là. Karim Alouache, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, très actif, très engagé, toujours.
Plein
et
de choses.
De la finance aussi.
Plein de choses. Une très belle masterclass hier.
Bravo.
Encore pour nos jeunes des quartiers.
Exactement, bravo.
Et sur Paris.
Je vous laisse réagir sur ce débat houleux là, qui s'est déroulé, justement, dans ce qu'elle disait, la députée, sur le fait de revenir sur l'accord franco-algérien.
Alors, je vous rappelle quand même, le premier qui en a parlé, c'est Édouard Philippe. Hein. Mmh. C'est, faut pas l'oublier moi, je pense que là, on est en train de toucher au fondement. La France a un problème avec l'Algérie depuis tout le temps. Et ça continue aujourd'hui. Et tant qu'elle n'aura pas réglé ce sujet, je crois qu'on n'avancera pas. Tout est tourné vers l'Algérie. Après, il ne faut pas oublier que l'Algérie, au-delà d'être une colonie, est un département français. Même si les Algériens n'avaient pas ce statut, puisqu'ils avaient un statut d'indigène, même si à la fin on a commencé à délivrer des cartes d'identité françaises, etc., où on avait enlevé cette mention, il n'en avait pas moins que le conflit n'est à ce jour toujours pas réglé.
Oui. Oui.
La deuxième chose qui me surprend moyennement, hélas, parce qu'on commence à s'habituer, on dit toujours qu'on s'habitue au pire, c'est que la parole se libère, mais totalement. Enfin... On peut demain victimiser n'importe qui, avoir des tenues, des propos racistes. Je vous rappelle que il y a aujourd'hui deux personnalités dans les médias qui ont été condamnées pour appel à la haine raciale, etc. Je citerai pas leur nom. Il y en a un qu'on voit sur tous les plateaux de télé et qui a été condamné par la justice. Et puis il y en a un second qui prend la tête d'un journal, quoi, tout simplement. Donc il y a des vraies questions à se poser.
Dans les informés des quartiers, nous allons nous intéresser aux auditeurs. Fatima de Paris, bonsoir Fatima.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, bienvenue. Ça fait longtemps, dis donc, ma chère Fatima.
À la rançon du succès.
Ouais.
Hier, j'ai appelé avant-hier. Enfin, des fois, j'appelle, mais j'arrive pas à vous avoir.
Bon, bah écoutez.
Ça fait plaisir que l'émission est très suivie.
Bon, bah écoutez, c'est partagé. On vous écoute.
Tout d'abord, je voudrais féliciter Sabrina, que j'ai écouté toute son intervention. Et je voudrais lui dire que les chiens aboient, la caravane passe. Bon. Je souhaiterais revenir sur votre interview d'hier avec le communiste là. Il reste encore des résidus.
Vous parlez du sénateur Yann Brossard.
Voilà, il est devenu sénateur.
Oui.
Un tour de passe-passe.
Yann Brossard.
Il a parlé de 3000 sans-abri. Des enfants plutôt, des 3000 enfants qui dorment dehors.
Oui.
Mais ce monsieur, il était pendant deux mandats chargé du logement à la mairie de Paris.
Oui.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Il s'est dû s'en expliquer hier.
Il a fait des choses.
Oui,
Adil Saleh.
Bon, il n'est pas là en tout cas pour vous répondre.
En plus, hier j'ai appelé, j'ai pas pu.
Oui.
En plus de ça, Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, vous m'avez coupé, j'ai perdu le fil.
Vous parlez
en plus de ça, il est passé par plusieurs élections qu'il a perdu. Et il se retrouve au quartier général avec l'archer, là, c'est la politique, là. Donc, il y a 61% de gens qui ne votent pas. Mais c'est le reste qui vote, cette fois-ci, c'est sûr qu'ils vont voter pour Le Pen.
Alors, promis, il nous a promis qu'il allait revenir. Et promis, vous savez quoi?
Il est sénateur. Ouais. Il va se la couler douce.
Non, mais attendez. Vous, comme ça, ça vous permettra de l'interpeller, de lui poser la question. D'accord?
Donc, c'est ça. J'étais effarée hier en écoutant.
Bon, bah écoutez. Je vous promets, ma chère Fatima, vous aurez l'occasion de l'interpeller.
Adil, il a fait 2 ans, je crois, 7 et 7. De mandat avec Hidalgo.
Oui.
Et la situation des SDF, ça fait mal au cœur de les voir.
Ouais, ça, c'est vrai.
Pas plus tard que tout à l'heure, des fois je me permets, selon mes moyens, de leur acheter un café ou un croissant ou quelque chose comme ça. Mais c'est incroyable, les gens s'en foutent royalement. Par ce froid, ils dorment sur le trottoir. Oui. Et pas que des familles, il y a des vieux surtout. Oui. D'accord, il y a des familles, mais il y a des vieux.
Bah écoutez, merci Fatima, voilà. Je vais lancer la pause. Et ben vous aurez l'occasion de l'interpeller,
merci,
je vous le dis. Avec plaisir, merci à vous.
Merci
à vous aussi.
Bonjour à vos invités.
Bah écoutez, vous savez aussi, 19h16, on marque la première pause et on se retrouve tout de suite après pour mettre les pieds dans le plat.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
Avec Jessica Longuer, Maître David Libeskid, avec notamment Karim Alouache. C'est parti tout de suite, vous savez quoi, nous allons entamer ce premier sujet qui a provoqué un vif débat, une polémique notamment. C'est à la fête d'Hanouka, vous savez, à l'Elysée, on est en pleine période de fête, hein, en ce moment, on rentre dans une grande période de fête notamment, et pour la communauté juive, il s'agit là de Hanouka. Hanouka à l'Elysée, beaucoup de réactions, des personnalités de droite comme de gauche, mais également aussi sont montées au créneau les personnalités de l'éducation nationale, le syndicat je parle, qui sont montées, interpellées le chef de l'État en faisant référence à la laïcité, notamment qu'est-ce qu'on laisse comme exemplarité auprès des jeunes, et notamment des jeunes, et je fais référence aux scolarisés, et puis les autres. Alors on va écouter un petit extrait. Ça se passait avec le grand rabbin de France, Monsieur Corzia. Il y avait le chef de l'État et puis tout un parterre, évidemment, de personnalités qui étaient donc à l'Élysée. Ça se passait à la salle des fêtes de l'Élysée, la première bougie pour la fête juive de Hanouka. C'était donc, écoutez, juste un petit extrait. Allez-y.
Les informés. Les informés. Le face à face.
Beaucoup de polémiques, et le président du CRIF, justement M. Harfi, a lui pris ses distances avec cette initiative en parlant d'une erreur. En gros, le président de la République n'aurait pas dû laisser passer ça. J'ai fait un tour de table. Qui veut prendre la parole? Maître David, bon. Libeskid, Jessica Elonguer. Ouais,
j'ai commencé.
Alors,
puisque,
erreur politique.
Ah ouais, moi je trouve que c'est inadmissible en fait.
C'est inadmissible.
C'est inadmissible parce qu'on a quand même en France un principe de laïcité qui doit guider toute la République. En fait, faire une fête religieuse, parce que Hanouka, c'est une fête religieuse, dans le palais d'Élysée, c'est inconvenant. Et je comprends.
Le sanctuaire républicain d'ailleurs.
Oui, c'est un sanctuaire républicain. Après, moi, je comprends le président du CRIF qui a dit que c'est une erreur. Oui, c'est une erreur de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'il n'avait pas manifesté à la marche contre l'antisémitisme, donc il a voulu se rattraper. Et également pour le grand rabbin de France. Moi-même, je suis d'origine juive, hein, donc je comprends pas pourquoi le grand rabbin de France, en fait, s'est permis de se faire instrumentaliser, parce qu'en fin de compte. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, il a instrumentalisé en fait le grand rabbin de France qui ne représente pas la communauté juive, hein, c'est plutôt à des fins purement politiciennes. Et moi je comprends en fait tous les élus qui ont été choqués, qui ont interpellé le grand rabbin de France et le président de la République sur ce sujet. En plus, dans un conflit en plus israélo-palestinien, ce qui laisse entendre en
beaucoup
fin
ont
compte,
dit l'Élysée c'est pas un lieu de culte, hein.
Mais oui, c'est pas le lieu de culte. En plus, on est en plein conflit israélo-palestinien.
Oui,
ça donne une image, en fin de compte, par rapport à la population française, notamment aux jeunes des quartiers, qu'Emmanuel Macron, en fait, il a pris une option pour Israël, comme il l'avait fait d'ailleurs au début. Après, il a essayé d'avoir une position un peu plus équilibrée, mais ça a été un peu compliqué pour lui. Et là, il essaye de faire une séance de rattrapage, mais c'est... Non, moi, je trouve ça franchement honteux, quoi. Qu'il aille rencontrer le pape, c'est normal, parce que le pape, en fin de compte, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, c'est un chef d'État, hein, c'est un État. Donc, quand il rencontre le pape, il rencontre pas le chef de l'Église catholique, il rencontre un chef d'État, parce que le Vatican est un État. Mais alors, dans ce cas-là, bah, faut faire pareil, hein, pour les fêtes musulmanes, faut les faut recevoir à l'Élysée, fêtes musulmanes, les fêtes catholiques, les fêtes protestantes, etc. quoi.
Etc. Jessica Longuerre.
Mais écoutez, je suis totalement d'accord avec ce que dit David. Et moi, je comprends pas aujourd'hui, lorsqu'on nous dit qu'on doit interdire la baïa, lorsqu'on nous dit qu'il faut interdire le voile, lorsqu'on nous, mais on nous sort tout le temps, mais des choses sur la laïcité où il faut contraindre les gens d'être, de s'exprimer dans la place publique avec, dans leur confession. Et je comprends pas comment on fait, du coup, d'un espace républicain, d'un espace qui appartient à tous les Français, qu'on l'utilise pour faire des fêtes de culte. Moi, je honnêtement, je ne comprends pas. Et très honnêtement, ça renvoie un mauvais message à la jeunesse, à cette jeunesse qui subit tout le temps, à cette jeunesse qu'on dit que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez car il y a une laïcité. On se rend compte que finalement, c'est pas la laïcité, c'est des laïcités, et que peut-être en fonction des confessions, il y aurait des laïcités qui se discuteraient et d'autres qui seraient totalement contraintes, et du coup on veut pas en parler, etc. Donc moi, je trouve qu'en tout cas politiquement, c'est n'importe quoi ce que le président a fait. Et je veux même pas que cibler le président, ce n'est pas que le président, il a des conseillers. Qui sont ces conseillers pour conseiller au président d'organiser ces choses-là? Je veux dire, ils ont embauché qui, très honnêtement? C'est du n'importe quoi. Donc moi, je pense qu'en tout cas, ça mérite aussi qu'il y ait une intervention publique de la part du président pour qu'il s'explique. Il faut qu'il s'explique sur
totalement. Non, parce qu'en fait, il prend fait et parti pour une religion.
On ne comprend pas.
On a le sentiment qu'il prend fait et parti pour une religion, quoi. Et qu'après, il donne des leçons de morale.
Moi, aujourd'hui, je ne comprends pas, où j'ai besoin d'explications. Quoi. Je pense que tous les Français ont besoin d'explications.
Karim Alouache, après, vous allez me dire, je ne vous donne pas la parole. J'ai commencé par vous, hein, figurez-vous. Hein.
J'ai rien dit.
Il est d'accord avec nous.
En fait, il y a deux façons de voir les choses. Effectivement, on a mis en avant la laïcité à toutes les sauces depuis des années pour dire la religion, c'est dans le domaine privé. Moi, je suis d'accord, hein, la religion, c'est le domaine privé, mais il faut s'appliquer à soi-même ce qu'on veut appliquer au peuple, tout bonnement. Moi, je crois que par cet acte... Bon, Hanouka, c'est clairement une fête religieuse. Là, on ne peut dire que c'est culturel. Il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je crois que tout d'abord, en étant en rupture avec la loi républicaine, il ne rend pas service d'abord à la communauté juive, puisqu'il il est en train de la stigmatiser.
Tout à fait, ouais.
Alors, je ne veux pas être pervers et penser que c'est fait exprès, mais parfois, on pourrait se poser des questions. Mais... De l'autre côté, s'il le fait pour l'un, moi je suis pour l'égalité. Ne disons pas qu'il faut arrêter de le faire. Disons, il faut le faire pour tout le monde. Donc dans ce cas-là, moi, au mois de mars, il y aura le Ramadan. Après, il y aura la fête de l'Aïd. J'espère que
c'est ce que
Macron
dit Maître Libeskind.
Fera, célébrera la fête de l'Aïd à l'Élysée aussi. Voilà.
Et en plus, c'est d'autant provocant que je vous rappelle demain, en fait, le 9 décembre. En fait, c'est la fête de la loi de 1905.
Oui, vous avez raison, il y a ça aussi.
Donc, il y a une forme aussi de provocation d'Emmanuel Macron, mais bon, on a un petit peu l'habitude.
Alors, en pleine fête de laïcité, alors qu'est-ce qu'on laisse justement ce que disait Jessica Ferrer? Qu'est-ce qu'on laisse aux gamins, justement, à l'école? C'est vrai, parce qu'ils en parlent, ils vont en parler.
Mais bien sûr,
ils vont parler que de ça. Alors, qu'est-ce que c'est les gamins, quand ils vont interpeller les profs, ils vont leur dire, effectivement, mais attendez, le chef de l'État, il a fêté Hanouka à l'Élysée.
En fait, dans cet acte, il y a une forme de perversité, en fait. Quand on y réfléchit bien,
ah bon,
oui, parce que de l'autre côté, enfin moi personnellement,
cas, ça fait bon,
je trouve qu'il rend pas service à la communauté juive, parce que là, qu'est-ce qui va se passer dans l'esprit basique de nombreuses personnes?
Le symbole.
Et vous dire, vous avez vu, ils sont privés, enfin
voilà,
très négatif pour eux.
Exactement.
Et je pense que ils ont pas besoin de ça. Et moi j'aime tout le monde, hein, de tout ça. Moi j'ai pas de problème avec ça du tout. Mais dans ce cas-là, on a passé des années à mettre en avant la laïcité et à presque interdit le fait d'être religieux, et chacun est libre d'être croyant ou non croyant. Et de l'autre côté, pour une fête, on va célébrer ça dans l'endroit le plus symbolique de la République, le plus fort de la République, c'est l'Élysée.
Emmanuel Macron, vraiment... Emmanuel Macron, il évoque une cérémonie dans un esprit qui est celui de la République et de la Concorde. Bon, non, vous ne répondez pas. Maître David Libeski.
C'est une fête religieuse.
Concorde, Concorde. Bah, oui, lui, pour la Concorde, pour se réconcilier peut-être avec la communauté juive, puisqu'il n'a pas participé à la marche contre l'antisémitisme. Ouais. Et je pense que c'est. Ce qu'il faisait, il est quand même président.
Mais les élus d'opposition, eux, ont dénoncé une atteinte à la laïcité. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord?
Mais bien sûr,
c'est clairement le cas. On va pas se mentir, c'est clairement le cas. Maintenant, s'ils veulent faire, moi je suis pas contre de le faire si on fait pour tout le monde.
Comme le disait Maître Lemesque.
Ça me dérange pas.
Il faut le faire avec personne.
Je vous rappelle qu'à l'Élysée autrefois, je sais plus si c'est encore le cas, on célébrait Noël avec les enfants du personnel de l'Élysée, etc.
Non mais ils le font toujours.
Voilà, ils le font toujours. Moi je suis pas restrictif. C'est-à-dire que moi je suis ouvert à tout et à tout le monde et à toutes les religions. Ça me pose aucun problème. Ça m'a pas. Quand j'ai des amis de confession juive, quand ils ont des fêtes, je leur souhaite bonne fête. Et quand c'est moi, je suis musulman, quand c'est mes fêtes, ils m'envoient des messages, bonne fête,
oui,
de l'Aïd, etc.
Privé, mais
honnêtement, ça nous dérange pas. Moi, ce que je trouve dangereux et pervers, c'est qu'il est en train de créer un déséquilibre et donc mettre des communautés l'une en face de l'autre.
Surtout dans le cadre du conflit actuel.
Et c'est ça qui me dérange. Moi, c'est ça qui me dérange.
C'est ça, je vous d'accord avec ça. Mais attendez, Maître David Libeski disait effectivement parce qu'il y a le conflit israélo-palestinien en ce moment et que ça peut, il peut y avoir un rapprochement.
C'est pour ça que je dis en fait que c'est une forme de provocation parce qu'il sait très bien que il y a le conflit israélo-palestinien. Il sait très bien que ça va choquer en fin de compte les musulmans de France. Et donc voilà, c'est une provocation. Et non, faut le faire avec personne. Faut pas continuer ce. Ce type
on
de
jurisprudence,
on ne peut pas déroger en fait au principe laïcité.
Alors est-ce qu'on peut parler d'entorse?
C'est la première fois dans la République qu'un président de la République en fait participe à une fête religieuse organisée au sein de l'Élysée. Donc c'est, on peut pas dire que c'est une entorse. Le mot est très faible. C'est une attaque et je pense qu'effectivement il doit rendre compte aux Français quoi.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que la lecture qui en est faite, mais naturellement, et je sais pas si tout ça c'est de la manipulation. Il met en porte-à-faux une communauté qui va encore être perçue comme celle qui a tous les privilèges.
Oui.
Voilà, à tort ou à raison, mais il le fait. La deuxième chose, il y a une interprétation suite au conflit en disant c'est une forme de une façon de se racheter vis-à-vis de la marche. Ouais. C'est un peu cette lecture-là. Mais quand on regarde bien les choses. J'ai envie de dire, c'est pas très malin. Enfin, c'est même pas très malin pour la communauté juive.
Alors, c'est quoi? C'est la laïcité à géométrie variable, c'est ça?
Mais totalement.
Jessica Longuerre.
On ne peut pas avoir une suite d'actualités. On a eu, dans la loi sécurité globale, l'interdiction d'utiliser les drapeaux dans les mairies. On a eu l'interdiction de la baïa. On a eu l'interdiction du voile. On a eu, mais je ne sais quoi. Alors, très honnêtement, lorsqu'il y a une fête religieuse dans un espace républicain, qu'est-ce que c'est? C'est plus la laïcité, c'est délaïcité. Et on considère que finalement, il y a des confessions qui méritent d'être stigmatisées, condamnées, car elles ne sont pas intégrées, elles ne sont pas compatibles avec l'esprit républicain. Et il y a d'autres confessions qui sont plus ou moins intégrées dans l'esprit républicain et qui méritent du coup, qu'il y ait une attention particulière. Et moi, personnellement, ça me désole. Et donc, il faut rendre compte. On doit comprendre comment l'Élysée, qui est entretenue par les fonds publics, par les impôts des Français, est utilisée à des fins de culte religieux. Et moi, je ne comprends pas. Et personnellement, le principe de laïcité, pour moi, c'est même pas oui, il faut faire pour les musulmans, oui, il faut faire pour les chrétiens, les bouddhistes et autres. Non, c'est un principe. Et tout le monde se fixe à ce principe-là. Personne.
Eh bien, on marque cette deux secondes pause, la dernière d'ailleurs, avant de se retrouver pour la dernière ligne droite. Vous savez quoi? On va parler de les Français. Vous savez quoi? Je ne sais pas si vous êtes au courant, qui sont de plus en plus nombreux à penser que le RN n'est pas un danger pour la démocratie, y compris dans les quartiers populaires. Oui. Eh bien, on va en parler. À tout de suite. Ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beur FM.
Les informés des quartiers avec Maître David Libeskid, avec Jessica Longuerre qui est élue à Creil, mais également aussi un ancien élu de Bondy qui est avec nous, qui est toujours évidemment très engagé dans la vie locale du 93. Karim Alouache, messieurs, madame, nous allons parler, vous savez quoi, avec cette idée qui consiste à dire tout simplement que ils sont de plus en plus nombreux, les Français, à penser que le Rassemblement National n'est pas un danger pour la démocratie. C'est quand même une première. Hein. Et je voudrais vous dire, vous soumettre, évidemment, que cette idée, elle émerge en tout cas dans les quartiers populaires. Et les quartiers populaires aussi, les habitants des quartiers populaires, considèrent que finalement, même Marine Le Pen au pouvoir, ça ne dérange pas. Et Jessica Longuerre.
Bah écoutez,
pourquoi, déjà, pourquoi ça prend forme comme ça?
Bah, c'est intéressant de se poser la question sur la stratégie de communication de
pourquoi
Marine
Le Pen. Pourquoi elle n'est plus un danger? C'est ça, oui, la stratégie.
Premièrement, il y a eu une démarche de dédiabolisation du Front National qui est passé du Front au Rassemblement. Donc le terme, déjà, on n'invite plus à faire bataille, donc un front, on invite à se rassembler. Deuxièmement, il y a eu aussi l'apparition de beaucoup de personnes issues des diversités, maghrébines, africaines, antillaises, au sein des élus de la composante RN.
Oui, mais
donc,
bon,
qui a changé aussi. Ça fait partie de la dédiabolisation. Et troisièmement...
Ils ne sont pas nombreux, hein.
Ils ne sont pas nombreux, certes, oui, mais n'empêche que ça renvoyait un autre message. Parce qu'à partir du moment où on part du principe qu'il y a un parti qui est censé être raciste et à l'encontre des étrangers, mais que dans ses composantes, il y a des personnes qui sont issues de la diversité, eh bien, très honnêtement, on se pose des questions. Troisièmement, Marine Le Pen a joué, s'est séparée premièrement un peu de la philosophie de son père, ce détachement, a viré son père du parti politique, vraiment a participer vraiment à une communication qui, je pourrais dire, est une communication intéressante en termes d'analyse politique, bien évidemment, et qui, voilà, aujourd'hui, dans les quartiers populaires, on a beaucoup de gens qui se disent, bah oui, mais Marine Le Pen, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Ça va rien changer,
C'est ce que disent les habitants des quartiers populaires.
Et au pire, voilà, on a eu des présidents à gauche, ils ont fait pire, on a eu des présidents à droite, peut-être que finalement, les extrêmes, ben, peut-être ça va changer notre vie. Honnêtement, je pense que ils ont raison, les Français, de se poser la question, de se dire qu'on a été déçus. Ils ont le droit d'être déçus. Par contre, de là à penser que Marine Le Pen serait, parce que au-delà du RN, c'est Marine Le Pen la figure, bien évidemment, Marine Le Pen serait l'issue favorable pour la France, moi je trouve honnêtement que c'est déplorable.
Maître David Libeskid.
Alors, plusieurs points. Alors déjà, en fait, c'est pas une nouveauté que les quartiers populaires votent, alors pas de manière massive, hein, faut le dire quand même à l'antenne, de plus en plus pour le RN. Mmh. Ça avait été constaté déjà en avril 2022, mmh, lors de la dernière présidentielle. Libé avait fait un papier là-dessus en disant qu'il y avait une progression du vote des quartiers populaires pour RN. Deuxième point, en fait, il y a, comme Mélenchon, parce qu'en fin de compte, c'est un quartier populaire où il y a le plus d'abstention, donc c'est un électorat à conquérir. Bon, Mélenchon a essayé, bon, même s'il est toujours en tête dans les quartiers populaires, et je pense que le RN essaye. Et d'ailleurs, Jordan Bardella est issu d'un quartier populaire.
Oui,
il est issu
de Seine-Saint-Denis.
Voilà. Donc, je pense qu'il y a, voilà, il y a une politique. On essaie de conquérir les abstentionnistes. En plus, le Front républicain n'existe plus parce qu'avant il y avait un Front républicain. Rappelez-vous, il y a longtemps. Et les quartiers populaires, justement, se mobilisaient également pour faire barrage. Ou FN, Jean-Marie Le Pen, ou à Marine Le Pen ensuite. Après, oui, c'est un tort pour les quartiers populaires, parce que Marine Le Pen, je pense, est un danger, mais ceux qui sont le plus dangereux, c'est ceux qui l'entourent. C'est dans des anciens du GUD, etc. Et si un jour, en fait, elle est amenée à conquérir le pouvoir, peut-être elle-même ne sera pas un danger, entre guillemets, même si faut quand même relativiser. Pour moi, ça reste un danger. Mais c'est ces lieutenants qui c'est l'ultra-droite. Ça sera les ratonnades dans les quartiers. Ça sera encore pire, la stigmatisation des lois.
Oui, vous pensez vraiment?
Ah, bah, bien entendu, évidemment. Mais... Non, mais bon, c'est certain. C'est certain. C'est certain. De toute façon, dans toutes les élections locales où le RN, ou le FN, enfin, peu importe, a gagné les élections, En fait, il y a eu quand même des rétrécissements des droits en fait, des communautés.
Bah oui, on a voulu interdire à un moment, si je ne me trompe pas, dans une mairie, les aides sociales aux enfants délinquants.
Les locales de la Ligue des droits de l'homme ont été fermées, etc.
Exactement.
Donc ça sera un plan national.
Il y a un petit détail aussi que j'aimerais aussi souligner, même si je n'ai pas envie de faire de mauvaises corrélations. C'est que dans le discours, notamment dans les prises de position de Marine Le Pen, notamment sur la question d'égalité hommes-femmes et les communautés LGBTI+, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes dans les quartiers populaires qui sont en accord avec aussi cette posture. Et donc, je pense que c'est une corrélation qu'il faut prendre aussi en considération.
On n'a pas entendu Karim Alouache. Alors,
Moi, je pense que d'abord, il y a beaucoup
l'homme de Français, du 93.
Non, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les quartiers populaires. Je ne parle pas de vous hein, spécialement, mais il y a beaucoup de gens qui se font des idées sur les quartiers populaires en disant, naturellement, si je suis dans les quartiers populaires, je suis de gauche, par exemple.
Oui.
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé?
On se trompe en disant ça.
Non, mais d'abord, qui a construit les ghettos? Qui a fabriqué intellectuellement les ghettos? C'est Mitterrand. Moi, je l'ai vécu. Attendez. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Moi, ça me fait bien rigoler quand je vois les commémorations, la marche des beurs et tout. Je suis intervenu l'autre jour et j'ai poussé ma gueulante et je suis sincère. Moi, je peux en parler parce que moi, je suis né dedans, j'ai vécu dedans et je suis resté très longtemps. Et j'ai vécu tout le processus.
Pourquoi François Mitterrand?
Mitterrand, la première chose qu'il a mis en place dans les quartiers, c'est ce qu'on appelle la sectorisation. C'est-à-dire l'assignation à résidence, l'interdiction de sortir de son quartier sur le plan éducatif. Vous rigolez. Hier, j'ai organisé une masterclass. Et le débat qui se passait, ceux qui étaient de ma génération ont pu aller à l'université où ils ont voulu. Ceux qui étaient sous cette sectorisation, se sont retrouvés dans des facs qu'on n'embauche pas, dont les diplômes, tout le monde s'en fout, et qui sont dévalorisés. Ça, c'est la première. Moi, le président, quand alors, du courage un jour... La deuxième chose, et je l'ai vu parce que c'était visible. Moi, quand j'ai grandi dans ma cité... Quand j'ai grandi dans ma cité, il y avait une diversité. Dans ma cité, il y avait une diversité. Il y avait des Maghrébins, il n'y avait pas encore l'immigration africaine, il y avait des Italiens, des Espagnols, beaucoup de Français. Et à chaque fois qu'une famille partait, si elle était française, elle était remplacée par une famille maghrébine. Quand une famille maghrébine partait, elle était remplacée par une famille africaine. Et c'est pas mon discours, c'est visible à l'œil nu. On va pas se mentir, on n'est pas là pour faire de la langue de bois.
Maître David
Vivesquier. Donc les quartiers sont là. La deuxième chose, Macron est arrivé. Comme Hollande est arrivé, on va tout changer. Est-ce que votre vie dans les quartiers s'est améliorée? Non. Elle s'est même dégradée et gravement dégradée. Bon, moi, je ne suis pas en train de dire, il faut. Je vous dis que les quartiers aujourd'hui ne sont plus, dans leur esprit, empêchés.
Acteurs de quartier, donc ça tombe bien. Maître David Libeskind.
Je suis d'accord avec la fin.
Alors, la sectorisation.
Vous allez lui répondre.
Voilà, je ne suis pas certain que ce soit sous l'époque mitterrandienne.
Ah, bah certain, moi je peux te dire. Ah, bah oui. Ah,
vous faites référence à qui? À Giscard d'Estaing?
Non,
je crois pas.
C'est le deuxième septennat de François
Mitterrand. C'était mis en 92, mais bon, après la sectorisation, c'était. Notamment pour le premier cycle, c'est-à-dire effectivement quand tu avais ton bac
à l'université.
Mais pour le premier cycle universitaire à l'époque, ça s'appelait DEUG. Après ta licence, ta maîtrise, ce qu'on appelle aujourd'hui licence pastorin,
tu sais aussi bien que moi quand tu as fait ton premier cycle à Saint-Denis ou à Villetaneuse, tu peux toujours te lever de bonne heure pour faire ton deuxième cycle à la Sorbonne ou à Assas ou à Dauphine.
Je suis pas d'accord pour cibler que ça a été une politique de Mitterrand. Je pense que tous les présidents, de toute façon, à partir du moment où il y a eu le commencement de la migration sur le territoire, et où il fallait trouver de la place, etc., des logements créés, et même dans les politiques de droite, il y a eu cette politique finalement de ghettoisation où on partait du principe que c'était plus simple de regrouper des communautés ensemble car elles étaient trop dépaysées. Je suis d'accord que ça a été une erreur.
Mais ça n'a pas été une erreur, ça a été voulu.
On ne peut pas cibler un parti en particulier. Ça a été une logique dans l'esprit.
Qui a mis la proportionnelle à l'Assemblée nationale pour faire entrer la première fois des députés du Front National, Mitterrand.
Oui, mais c'était dans un but de stratégie politique.
C'est une stratégie de stigmatiser les communautés.
C'est une stratégie pour tout.
C'est parti.
(01) 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je vais accueillir Mohamed de Paris. Bonjour Mohamed. Bonsoir Mohamed.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes.
Bienvenue, vous avez vu le débat concernant les quartiers populaires, la politique, Mitterrand. Bref, qu'est-ce que vous pensez de tout cela, mon cher Mohamed ?
J'ai un peu entendu tout ça, j'ai bien écouté. Et moi, j'ai envie de dire mon avis sur la dangerosité du RN.
Oui, dites-nous, ça nous intéresse justement.
Si jamais ce parti politique arrive au pouvoir, moi je pense que notre pays risque de partir, pas en guerre civile, c'est un grand mot, je vais pas aller chercher loin, mais ça pourrait très mal se passer entre les personnes d'origine étrangère, ce qui veut dire ce qui est, ils acceptent plus les personnes d'origine étrangère, le RN. Et surtout quand ils ne sont pas français. Déjà, quand on est français, on n'est pas très bien vu. Alors, quand on n'est pas français, c'est pire. Yeah. Et là où ça peut être dangereux, encore pire, parce que dans le programme du RN, ils souhaitent, eux, interdire le voile pour les musulmanes sur la voie publique. Sur la voie publique. Donc là, il va y avoir vraiment, vraiment un problème là-dessus. Parce que il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de musulmans qui portent le voile, déjà par elles-mêmes. Elles ne sont pas forcées ni par leur mari, ni par leur frère, ni par leur oncle, etc. Et ça va vraiment, vraiment poser le problème. Il y a eu déjà des soucis pour la boucle.
Ah oui, Maître David, attendez, il y a Maître David Libeski.
Mohamed, je suis complètement d'accord avec votre analyse. Effectivement, je ne pense pas qu'il y ait une guerre civile. Il y aura une guerre civile. Mais en tout cas, comme vous le dites, enfin, les personnes, en fait, ils sont français. Les personnes d'origine maghrébine aujourd'hui, ils sont français en grande majorité.
Ça c'est nous qui le disons, mais à leurs yeux, nous ne le sommes pas.
Je suis d'accord avec vous.
On est français par
papier. Mais ça, je suis d'accord avec vous.
Donc, on est français par papier quand on entend Éric Zemmour et quand on entend Jean Messia, quand on entend
Bien personnes. Sûr. Non, mais là-dessus,
Jessica.
Je suis totalement d'accord avec ce que Mohamed dit, et d'autant plus que à chaque fois on nous bassine c'est toujours le RN qui nous bassine avec intégration ou assimilation. Aujourd'hui, si demain Marine Le Pen passe, je suis désolé, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de principes aussi qu'on va perdre. Je vous rappelle que Marine Le Pen fait partie des personnes qui considèrent que la France est un pays catholique, donc n'est même pas un pays laïque, et donc par conséquent, le paysage, la France va changer, et elle change déjà, qu'est-ce que ce soit sur des raisons diplomatiques. On voit nos relations avec la région du Sahel, on a perdu beaucoup d'intérêts économiques et aussi des Français qui étaient sur le territoire du Sahel, qui ont dû être rapatriés en France. Moi, je ne sais pas à quoi va ressembler la France dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, si on continue à avoir dans cette perception qu'il y a les méchants, et les méchants, c'est les étrangers.
Mohamed, je vous libère.
Ça fait peur pour nos enfants.
Ouais. Voilà.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être.
Tiens, ce sera ma dernière question que je vais leur poser justement. Merci Mohamed d'être intervenu.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous et au plaisir. Il dit qu'il est très inquiet pour la génération à venir. Vous êtes d'accord avec ça?
Je voudrais rebondir sur ce qu'elle a dit, mais j'entends. Mais la politique dite de Marine Le Pen, elle est déjà en place depuis des années avec ce gouvernement.
Le Pen
vous
père.
Oubliez
Le Pen
systématiquement père. Quand il y a un sujet aujourd'hui, j'ai jamais autant entendu parler de musulmans que sous ce gouvernement.
Oui. Merci.
On a rien. Je crois qu'elle a même pas à faire du boulot. Mm. C'est déjà fait. Je pense que vous le percevez pas, mais c'est vrai.
Karim Alouache, merci.
Merci.
Merci à vous. Au plaisir.
Je voudrais passer un petit message, et je connais pas son prénom. J'ai eu un échange avec un collègue du boulot qui m'a dit: ma sœur t'écoute tout le temps. Et je sais qu'elle a par moment des petits soucis de santé, donc je voudrais l'embrasser bien fort et la saluer. Je suis certain qu'elle nous écoute, donc voilà.
Puis on lui souhaite une bonne santé, une amélioration de sa santé.
Voilà. Exactement. Et j'en profite justement pour saluer Aïda. Aïda qui nous écoute, c'est une jeune auditrice, fidèle ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, on la salue chaleureusement aussi et on lui fait des petites bises. Mon cher Maître David Libeski, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Et moi aussi, j'en profite pour faire une petite dédicace à Femmes sans frontières, Faïza, qui sont agréés, qui font un travail incroyable.
Bon, on les salue. Respect. Voilà. Bravo. Merci à Solal à la réalisation. Merci à vous. Bilal Nedman, c'est Time Sport de 20h à 21h. Vanessa, 21h, 23h. Et tous les programmes concernant le week-end qui vous accompagnent, évidemment, tout ce week-end. À lundi avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.